vous, fils et filles bien-aimés de Dieu, bonsoir.
Bonsoir.
Vous savez, je pense que je dois dire une fois encore merci au Père Gilles qui m'a donné l'occasion de présider cette Eucharistie. Et pourquoi? Quand il y a 3 jours, il m'a appelé pour me dire de présider cette messe, je lui ai dit que j'ai déjà fait ma réservation et que je serai ainsi à 19h. Il me dit de faire une autre réservation, qui va payer? Et donc, il dit, nous allons payer, fais notre réservation, nous allons payer. Et du coup, j'ai dû changer encore et j'ai perdu la première réservation et j'ai repris encore. Et quand il faudrait reprendre, je n'ai plus trouvé de place, je n'ai pas trouvé de train. Alors j'ai été ingénieux en disant, je fais Paris-Montréal-Lyon et je fais Lyon-Annecy. Et c'est alors que j'ai pu trouver une opportunité qui m'a mené ici. Alors je suis plein de gratitude, très content pour cette opportunité, pour ce qu'il a voulu que l'Esprit de Dieu a fait concrétiser. Parce que rien ne dépend de nous. Avant que nous décidions quelque chose, c'est Dieu qui le programme. Et je suis plein de reconnaissance pour vous que je retrouve. Et chaque fois que nous nous retrouvons, quelque chose naît, une joie réjaillit, une ambiance de paix naît, surtout pour moi. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je vous dis merci. Et en ce 22e dimanche du temps ordinaire, Dieu nous donne la grâce de célébrer l'Eucharistie, de le vivre une fois encore. Et en vivant cette Eucharistie, il nous a été donné d'écouter ce texte. Je voudrais faire ma méditation en donnant un titre à mon homélie. Le titre que je voudrais bien donner, c'est « Seigneur, qui séjournera sous ta tente ?» Nous allons répondre à cette question. Seigneur, qui séjournera sous ta tente? C'est la question du psaume responsorial que nous avons écouté tout à l'heure. Et pour répondre à la question, allons à la première lecture. Dans la première lecture que nous avons écoutée tout à l'heure, vous savez, on est en mesure de se demander qu'est-ce qui se passe au niveau du texte. Je demande encore pardon au PJ, professeur de Bible, pour faire une démonstration. Vous savez, on dit, Moïse disait au peuple, alors que le texte a été écrit entre le 8e et le 6e siècle avant notre ère. Moïse était mort depuis. Mais comment se fait-il qu'on dit maintenant, Moïse disait au peuple? Et si je demande encore la permission au peuple pour continuer, c'est qu'on a l'impression même que le texte a été écrit pendant que le peuple était en exil à Babylone. Alors que nous savons que l'exil à Babylone était dans les années 587 avant notre ère, 6e siècle. Bon, si je prends ces garde-fous, alors je me dis, alors, comment Moïse peut-il dire, alors qu'il était même mort avant l'entrée à Canaan? Et c'est la désobéissance à Canaan qui a conduit le peuple en exil. Première déportation, deuxième déportation. Alors comment Moïse peut-il dire, alors qu'il serait déjà mort? Alors nous allons comprendre quelque chose. Pour comprendre donc ce texte, on peut dire que c'est un texte qui a été rappelé au peuple d'Israël pour lui dire, si tu avais écouté, si tu avais tenu compte de mes recommandations, tu ne serais pas là. Maintenant, Israël, écoute les décrets et les commandements que je vous enseigne pour que vous les mettiez en pratique. Ainsi, vous vivrez, vous entrerez pour en prendre, pour en prendre possession dans le pays que je vous donne, que vous donne le Seigneur, le Dieu de vos pères. Autrement dit, c'est un peu comme pour dire, si vous aviez eu à écouter mes commandements, si vous avez eu à écouter mes paroles, vous ne serez pas là. Maintenant, si vous êtes libérés, écoutez la parole de Dieu, écoutez ce que le Seigneur dit, et vous pourrez prendre possession du peuple. Et à la fin, donc, le texte va nous dire, mais quand les gens vont vous voir vivre mes commandements, ils diront, il n'y a pas un peuple sage et intelligent comme cette grande nation. Quelle est en effet la grande nation dont les dieux sont aussi proches que le Seigneur notre Dieu est proche de nous chaque fois que nous l'invoquons? Et quelle est la grande nation dont les décrets et les ordonnances sont aussi justes que toute cette loi que je vous donne aujourd'hui? Autrement dit, on est en train de rappeler au peuple qu'en réalité, s'ils respectent le commandement de Dieu, premièrement, ils ne seraient pas en exil, et qu'ils retourneront sur la terre promise, bon, qu'ils retourneront chez eux, après l'exil à Babylone, qu'ils respectent maintenant les commandements de Dieu, et en respectant les commandements de Dieu, le peuple, les peuples alentours, qui les entourent, excusez la tautologie, pour, les peuples-là pourront alors croire qu'ils ont un Dieu, et vont s'étonner que leur Dieu soit si proche d'eux. Parce que, après l'entrée à Cana, le peuple d'Israël a commencé par, je vais dire, se prostituer. C'est-à-dire, ils ne respectaient plus seulement Yahvé. Ils ont commencé par copier les peuples alentours. Rappelez ce qui s'est passé dans Samuel. Donne-nous un roi comme tous les autres peuples. Mais on ne peut pas faire comme tous les autres peuples. Nous, eux, ils sont un peuple théocratique. C'est un peuple conduit par Dieu lui-même. Mais ils ont voulu faire comme tout le monde. Alors, avec insistance, nous allons voir. On leur a permis d'avoir des rois. Et c'est avec les désobéissances de ces rois qui se sont retrouvés après en exil à Babylone. Alors, nous comprenons que ce qui se passe dans le texte d'aujourd'hui nous rappelle qu'il faudrait que le peuple d'Israël, pour être peuple de Dieu, pour être peuple de ceux Yahvé qui les a fait traverser la mer Rouge, que ce peuple respecte les commandements de Dieu. Ça veut dire, c'est en respectant les exigences et les commandements de Dieu que le peuple appartient à Dieu. Chers amis, si on dit, pour être chrétien, bon, pour venir à la messe ici, il faut porter habit jaune. Si nous venons, nous ne portons pas habit jaune, ça veut dire que nous ne faisons pas partie des chrétiens. Directement, nous voyons, on dira que non, il n'est pas chrétien parce que s'il était chrétien, on a dit les chrétiens porteront habit jaune. Il aurait porté habit jaune. Ça veut dire que c'est le commandement qui nous fait appartenir à un peuple. C'est en respectant les exigences, en respectant les commandements de notre Dieu que nous sommes les fils de ce Dieu-là. Alors, une autre question, pour revenir à l'autre question qui montera sur la montée du Seigneur. Une autre question, quel est donc ce commandement de Dieu? Nous irons dans l'évangile pour voir quel est donc ce commandement de Dieu. Ce commandement de Dieu, apparemment, doit être totalement autre chose. Parce que quand nous écoutons l'évangile, les pharisiens ont commencé par accuser les disciples de Jésus. Mais Seigneur Jésus, comment se fait-il que toi, tes disciples, ils ne font pas les ablutions qu'il faut avant de manger? Quand ils reviennent, ils ne se lavent pas les mains. Ils ne font pas ci, ils ne font pas ça. Et le Seigneur va les reprendre en disant, mais non, qu'est-ce que vous dites? C'est vous qui êtes en erreur. L'essentiel, c'est ce qui vient du cœur. L'essentiel, c'est ce que vous m'offrez à partir de votre cœur. Parce que je me rends compte que vous, le peuple, ce peuple, vous m'honorez du bout des lèvres. Mais le fond, votre fond est sombre et sale. Et donc, il ne servira donc à rien que vous soyez avec moi, lavant cruche, et nettoyant ceci, faisant ceci, tout ce qui est externe, alors que votre cœur est encore très loin. Si on est ainsi, ce n'est donc pas la peine. Au contraire, les disciples du Christ, eux, ils ont choisi donc le Christ qui est venu nous annoncer vraiment Dieu, et en étant avec le Christ, ils ont fait le choix définitif et le choix idéal. Il ne s'agit plus donc de respecter la veille de cruche, de respecter carême, de respecter sabbat, de respecter. On doit respecter, mais dans l'esprit de ce que la loi dit de faire. Alors le Seigneur Jésus va les ramener à l'essentiel pour leur dire non, ce que vous faites, ce n'est pas d'abord ça. Ce n'est pas de l'extérieur que le péché rentre en l'homme, mais c'est du dedans. C'est ce qui est dans votre cœur. C'est ça qui est l'important. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous et moi, nous savons que le Seigneur nous invite à ses commandements, un commandement d'amour, et pourtant, Nous sommes très loin. Nous ne voulons jamais rendre service. Nous ne voulons jamais être proche de ce commandement. Et nous nous pointons chaque jour à l'église. Nous nous pointons chaque jour aux activités d'église. Cela reste un peu. Nous ne sommes pas dans une démarche mathématique où 1 plus 1 donne 2, mais dans une démarche de cœur, dans une démarche de foi, dans une démarche d'amour. Alors je repose la question. Seigneur,
qui séjournera sous ta tente?
Alors, je reprends la question. Seigneur, qui séjournera sous ta tente? Finalement, qui séjournera sous la tente de Dieu? Nous avons vu ce qui s'est passé dans la première lecture. Nous avons vu le renouveau apporté par Jésus-Christ. Alors, que veut le Seigneur? Pour cela, je voudrais bien relire le psaume et voir si nous pouvons trouver une réponse là avant d'aller encore dans la deuxième lecture. Seigneur, qui séjournera sous ta tente? Celui qui se conduit parfaitement, qui agit avec justice et dit la vérité selon son cœur. Il met un frein à sa langue. Il ne fait pas de tort à son frère et n'outrage pas son prochain. À ses yeux, le réprouvé est méprisable, mais il honore les fidèles du Seigneur. Seigneur, qui séjournera sous ta tente? Il ne reprend pas sa parole. Il prête son argent sans intérêt. N'accepte rien qui nuise à l'innocent. Qui fait ainsi demeure inébranlable. Alors nous comprenons que celui qui séjournera sous la tente du Seigneur, c'est celui-là qui a un cœur sincère, qui ne veut pas le mal de son frère et qui est disposé à apporter du bien dans la vie de l'autre. Et la deuxième lecture que nous avons entendue tout à l'heure pourra bien nous éclairer. Elle dira, accueillez dans la douceur la parole semée en vous. C'est elle qui peut sauver vos âmes. Mettez la parole en pratique. Ne vous contentez pas de l'écouter. Ce serait vous faire illusion. Devant Dieu notre Père, un comportement religieux pur et sans souillure, c'est de visiter les orphelins et les veuves dans leur détresse et de se garder sans tâche au milieu du monde. Nous avons trouvé la réponse. Alors, Seigneur, qui séjournera sous ta tente? Devant Dieu notre Père, un comportement religieux pur et sans souillure, c'est de visiter les orphelins et les veuves dans leur détresse et de se garder sans tâche au milieu du monde. Vous savez, quand on dit visiter les veuves et les orphelins, on peut dire non, bon, est-ce que nous en connaissons? Parce que chez vous ici, vous avez un bonheur inouï dont vous n'êtes même plus conscient. Vous avez, quand on dit un veuf, une veuve, un veuf ou un orphelin, c'est quelqu'un qui n'a rien, qui n'a personne et qui est dépouillé de tout. Vous savez, dans les sociétés phallocratiques, c'est-à-dire dans les sociétés où c'est les hommes qui sont les patrons, qui sont les chefs, quand cet homme meurt, la veuve n'a plus de sous, n'a plus personne pour la soutenir. La veuve n'a plus personne pour lui venir en aide. La veuve n'a plus rien parce que c'est l'homme qui était sa force. C'est l'homme qui était celui sur qui elle s'appuyait. Cet homme meurt, elle n'a plus rien. Et si elle, qui est la veuve, n'a plus rien, n'a plus aucune force, n'a plus aucun soutien, l'orphelin, lui par contre, est totalement dépouillé et n'a aucune force. Alors aujourd'hui, si même nos veuves à nous ont l'héritage, on continue toujours d'avoir un traitement, on continue toujours d'avoir un moyen, nous pouvons définir autrement la veuve et nous pouvons définir autrement l'orphelin. L'orphelin aussi, c'est celui qui déprime à côté de nous et qui peut-être a besoin d'une parole de notre part pour reprendre vie. L'orphelin, c'est peut-être celui qui désespère de la vie et qui a simplement besoin de notre sourire pour savoir que la vie est toujours belle. L'orphelin ou la veuve, c'est celui-là qui n'a plus rien et qui n'a rien. C'est l'immigré qui voyage sans savoir même où il va. C'est celui-là qui est dans le monde sans en venir concret. C'est celui-là que peut-être Dieu a mis sur nos chemins, que nous devons aider, à qui nous devons apporter un secours, à qui nous devons dire un mot pour qu'il retrouve toute sa force et nous ne le faisons pas. L'orphelin et la veuve, c'est peut-être celui-là que nous avons gardé rancune, celui-là que nous ne voulons pas pardonner, celui-là qui a besoin de notre sourire, qui a besoin de notre pardon, qui a besoin que nous libérions et que nous avons gardé dans la prison de notre ventre. L'orphelin, c'est celui-là qui pleure à cause de notre injustice. L'orphelin, la veuve, c'est celui-là qui pleure à cause de la corruption. L'orphelin, c'est celui-là qui pleure parce que nous ne lui avions pas dit la vérité. Et vous savez, nous sommes dans une société où il est interdit de dire la vérité, mais plutôt de vivre avec quelqu'un, d'être avec la personne en essayant de respecter son choix. Et c'est tellement bien, non, c'est sa liberté. Il faut respecter le choix. Mais qu'est-ce que Yahvé dit? Qu'est-ce que Dieu dit? Vous et moi, nous sommes le peuple de Dieu. Et étant le peuple de Dieu, ce qui nous caractérise, c'est le respect des commandements de Dieu. C'est ça qui nous fait. Et le vrai commandement, le plus grand commandement, c'est le commandement de l'amour. Parce qu'en réalité, fils et filles bien-aimés de Dieu, la voie ou le chemin qui mène à Dieu passe par le frère. Qu'as-tu fait de ton frère? Parce que pour aller vers Dieu, il faut nécessairement passer par un homme. Il faut nécessairement passer par l'homme. La voie qui mène à Dieu passe par le frère. Alors nous allons reposer la question. Seigneur, qui séjournera sous ta tente? Et vous et moi, nous voyons déjà celui qui peut séjourner sous la tente de Dieu. Nous savons déjà celui qui peut oser séjourner sous la tente de Dieu. Nous voyons celui qui peut prétendre monter vers la tente de Dieu. Celui-là, c'est celui qui a un cœur disposé. Celui qui souffre pour l'orphelin. Celui qui souffre pour la veuve. Celui qui souffre pour que le prochain garde toujours et ait toujours le sourire. Vous savez, dans vos milieux ici, Chacun est dans son quartier, dans son appartement. On ferme les portes, on ferme tout. On est là. Je suis chez moi. L'autre est là. Personne ne parle à son frère. Et chacun est dans son, pas dans son en soi, mais chacun chez lui. C'est tellement bien. Mais attention, il peut y en avoir qui meurent. Il peut y en avoir qui dépriment. Il peut y en avoir qui cherchent un sourire, qui cherchent un secours. Mais nous, chrétiens, vivons autrement. Visitons-nous, saluons-nous, rigolons. Il y a des chrétiens qui ne rient jamais. Et ça, ce n'est pas bien. Nous devons rire. Nous devons témoigner de notre espérance. Alors, qui séjournera sur la tente de Dieu, c'est celui-là dont le chemin vers Dieu passe par l'homme.